Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, encore des critiques sévères sur la gestion du fonds vert, cette fois par le commissaire à l'environnement Paul Lannoy. On en discute avec le reporter du bureau parlementaire, Charles Lecavalier, qui a beaucoup écrit à ce sujet. Ensuite, le critique en matière de finances au Parti québécois, Martin Ouellet, a réclamé une autre fois aujourd'hui, et en vain, la création d'un poste de directeur parlementaire du budget, lequel permettrait d'avoir un portrait plus objectif des finances publiques. Dans l'opposition, la CAQ l'a exigé pourtant à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, elle a refusé. Mais d'abord, la COVID vient d'arracher au Saguenay-Lac-Saint-Jean un de ses grands hommes politiques.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
On vient d'apprendre la mort de Marc-André Bédard, une figure vraiment mythique de la politique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et avec nous, il y a Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Donc, mes condoléances d'abord, Sylvain. Pour vous, qu'est-ce que représentait là, Marc-André Bédard pour cette région et pour le Québec?
Ben un pilier de la liberté du Québec, un pilier du développement inconditionnel et de l'amour inconditionnel du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un conseiller, un fin stratège. Il y a encore quoi, peut-être 3 semaines, on s'est parlé parce qu'il voulait absolument me parler après les résultats de la course à la chefferie, puis on a échangé.
Et vous avez appuyé d'ailleurs, hein?
Oui. J'ai une photo de lui là. Ça fait exactement 1 an, le 25 novembre l'année passée. Mm-hmm. On était ensemble sur une scène pour lancer ma campagne à la chefferie. Je suis pas capable de m'entrer dans la tête qui est plus là, là.
C'est subi comme départ, puis c'est la maudite COVID là qui est venue le chercher. C'est alors que la région, justement, du Saguenay-Lac-Saint-Jean est vraiment affectée lourdement, vit son pire moment de la pandémie. Et c'est terrible. Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience supplémentaire là, que la COVID est venue chercher quelqu'un, un monument comme celui-là?
Peut-être. On souhaite pas, évidemment, que ça prenne ça pour qu'il y ait prise de conscience. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais... Il faut toujours en faire plus. Monsieur Bédard habitait depuis quelques années à la résidence, ce qu'on appelle le Manoir Champlain, chez nous. Mm-hmm. C'est au centre-ville de Chicoutimi. Puis c'est un des lieux où il y a beaucoup d'éclosions là, depuis quelques jours. Et ce que j'ai compris, c'est que ça s'est précipité quand même assez rapidement dans son cas. Évidemment, là, je transmets mes condoléances à toute sa famille. C'est 4 gars que je connais. On est presque du même âge. Et avec qui, évidemment, j'ai siégé, avec Stéphane, qui est un ami personnel. Alors, c'est vraiment un très gros coup, là.
Mm-hmm. Ça a été un grand ministre de la Justice. Il a été aussi connu comme ça, Marc-André Bédard. Parlez-nous un peu de son apport, là, comme ministre.
Ben, c'est tantôt, justement, j'en parlais avec Stéphane... et il faut se rappeler que c'est lui qui a amené la modification à la Charte des droits et libertés de la personne dans les années 70 pour inclure l'homosexualité comme motif de discrimination.
Ah oui.
En vertu de la Charte. Ouais. Puis c'est lui aussi qui a inscrit toute la réforme du droit de la famille dans le Code civil. Les droits de la femme à l'intérieur du mariage, etc. Il a travaillé très, très fort là-dessus. C'est un conseiller très proche de René Lévesque également. C'est un avocat d'abord et avant tout. Hein. C'est un grand juriste pour qui la notion du droit et de la justice, de l'équité est importante. Puis c'est quelqu'un aussi qui, malgré le fait qu'il est né dans les années 30, que c'est un homme de sa génération, qui était capable de faire la part des choses pour faire avancer le Québec, justement, sur la question, par exemple, du droit des personnes homosexuelles, des choses comme ça. Tu sais, malgré son éducation, malgré sa culture, il savait dire, ben il faut que le Québec avance.
C'est un progressiste à ce moment-là, parce qu'on l'a souvent associé à, non pas la droite du parti, mais centre-droit, disons, du Parti québécois, non?
Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il était capable de faire la part des choses. Je pense qu'il avait ses idéologies puis ses idées personnelles, puis c'est tout à fait correct, mais il n'était pas un dogmatique. Il était capable de voir où allait le Québec puis de se ranger du côté du progrès social et des demandes de la majorité, je dirais, d'une certaine manière. Donc, un grand démocrate, quelqu'un qui a un sens politique très fin, pas une vedette sur le plan national, en tout cas dans l'équipe de M. Bédard, de M. Lévesque, mais un loyal, un fidèle, quelqu'un qui était toujours là.
Très proche de René Lévesque, dit-on. Parlez-nous un peu du rapport de Marc-André Bédard et René Lévesque.
Ben, je pense que ce serait plus à ses fils de vous en parler, mais il y avait une relation de proximité très, très claire. Il suffit de lire, c'est-à-dire chacune des biographies de René Lévesque pour voir que M. Bédard n'est jamais très loin. Une des choses qui m'avait marqué dans... Attendez que je me rappelle de René Lévesque.
Oui.
Il y a la reproduction à la fin du livre en annexe de son brouillon de remaniement ministériel. Puis le seul qui est nommé par son prénom, c'est M. Bédard. C'est marqué Marc-André.
Ah oui.
Les autres, c'est Monsieur Parizeau, Monsieur Garon, Madame Harel. Mais pour ce qui est de Monsieur Bédard, c'est le seul qui est indiqué par son prénom. Alors vous allez me dire, c'est une anecdote. J'ai aucune confirmation sur ce que ça signifiait. Mm-hmm. Et pour moi, il y a comme un petit symbole là. Tu sais, je pense qu'il y avait une proximité. Puis on le sait là. De toute façon, c'est documenté là qu'il était de bons amis. Là.
Il était important dans la région, même après sa retraite politique.
Ah oui, tout à fait. Toujours été hyper actif. Il est encore actif récemment, là, très impliqué, entre autres, pour la préservation du patrimoine de la cathédrale de Chicoutimi. Mm-hmm. Donc, il y avait une levée de fonds là, pour, je pense que c'était pour réparer le toit ou les joints là, des pierres sur les meubles. Puis M. Bédard était au front là, pour aller collecter des fonds pour ça. Ouais. Alors, toujours très impliqué. Ouais.
En terminant, comment on devrait honorer sa mémoire? Dans la région, avez-vous des idées, Dieu. Sylvain?
Écoutez, à quelques minutes seulement de l'annonce publique de son décès, là...
Un peu prématuré.
C'est prématuré à ce stade-ci, mais c'est clair qu'il va falloir trouver quelque chose, puis... Mais pour moi, en tout cas, son plus grand hommage, le plus grand hommage qu'on peut lui faire, c'est de rappeler à quel point il était un homme de liberté pour le Québec, un homme de famille aussi, puis un homme qui avait beaucoup d'écoute.
Il vous a inspiré, alors?
Oh, oui, c'est sûr. On n'a pas toujours été d'accord, là, M. Bédard et moi. On a eu nos différends, mais on a beaucoup travaillé ensemble, puis oui, c'est une source d'inspiration.
Merci beaucoup, Sylvain.
Merci.
Sylvain Gaudreau est député de Jonquière. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille,
le philosophe de la politique.
La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Parle-nous de toi. On voudrait bien savoir ce qui se passe. Si t'es comme ton âme.
Bonjour Charles Lecavalier.
Bonjour Antoine, ça va bien?
Oui, correspondant parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Tu as suivi aujourd'hui le dépôt du rapport de la vérificatrice générale sur le fonds vert.
Dans le contexte, on parle du fonds vert, là, puis encore une fois, ce qu'on apprend, c'est que le fonds vert...
C'était géré tout croche.
Exactement. Donc, tu sais, les gens vont dire, mais voyons, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ce qu'il y a de neuf, c'est que, dans le fond, le commissaire au développement durable, qui s'appelle M. Paul Lannoy, maintenant, il fait une révision annuelle du fonds vert, qui s'appelle maintenant le fonds d'électrification. Et ce qu'il a découvert, bon, c'est des choses qu'il avait déjà dites par le passé, mais sont importantes de mentionner. C'est que le fonds vert, le ministère de l'Environnement sont en retard sur la production de documents, parfois de plusieurs années, qu'il n'est pas capable de faire un portrait de la situation. Est-ce que le fonds vert fonctionne pour réduire les émissions de GES, par exemple?
Ça, faut dire que c'est en 2017-2018, donc avant le changement de gouvernement. Donc, on est encore dans la gestion libérale du fonds vert, si je comprends bien?
Oui, exactement. Ou en tout cas, on est encore dans la... Oui, tout à fait.
Et là, c'est exactement des dizaines de millions de dollars du fonds vert qui ont été dépensés en contravention des lois par des ministères.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'intéresse aux frais administratifs. Les frais administratifs, là, c'est soit, par exemple, des fonctionnaires qui gèrent des programmes ou si, par exemple, des organismes qui sont subventionnés qui vont faire payer des salaires par le fonds vert pour gérer des programmes qui visent à réduire les émissions de GES. Les frais administratifs, là, ça ne réduit pas les GES. C'est pour payer des salaires. Là. On s'entend là-dessus. Monsieur Lannoy, en fait, ce qu'il dit, c'est que pour 2017-2018, il y a eu 41,2 millions, ce qui est quand même des sommes assez considérables, qui ont été chargées au fonds vert en frais d'administration. Puis il y en a 30 millions là-dedans qui n'ont pas été approuvés par le conseil de gestion du fonds vert. Puis ça, c'est pas conforme avec la loi. Là. C'est en contravention avec la loi. Normalement, les ministères devraient avoir fait approuver ça. Et à l'intérieur de ce 30 millions-là, il y en a 20 millions qui sont en fait, qui ont été dépensés par le ministère de l'Environnement lui-même, donc en contravention avec la loi.
Bon, au moins, ça profite au ministère de l'Environnement qui est souvent désargenté.
Oui, sauf qu'en même temps, tu sais, dans le fond, il a fait payer par le fonds vert des fonctionnaires qui travaillent à développer des politiques ou des expertises en lien avec les changements climatiques, s'occuper de la gestion du marché du carbone. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle du fonds vert de payer ça ou ça ne devrait pas être dans le fonds courant du ministère de l'Environnement?
Ouais. Ouais, oui.
C'est ça la question, en fait. Puis M. Lannoy, en fait, déjà en 2014, il disait que ça manquait de transparence, les frais administratifs. Puis pour en arriver à ce montant-là, il a fallu qu'il compile des centaines de documents parce que le ministère de l'Environnement et le fonds vert ne lui disent pas combien on paye en frais administratifs. Et pire, Benoît Charette, le ministre actuel de l'Environnement, a décidé en 2019 de ne tout simplement plus publier d'informations du tout sur les frais administratifs. Donc, c'est le VG qui va, avec son pouvoir d'enquête, essayer d'obtenir cette information-là, mais elle n'est plus publique.
Mm-hmm. Donc, cet argent-là pourrait servir à toutes sortes de programmes.
Il faut quand même
qu'il soit administré, ces programmes-là.
C'est ça. C'est pas de la fraude. Puis on s'entend que c'est normal qu'il y ait un minimum de frais administratifs. On s'entend là-dessus. Sauf que, comme je te dis, dans les 30 millions de frais administratifs non approuvés, il y en a 20 millions qui relèvent du ministère de l'Environnement. Puis c'est quoi le rôle du ministère de l'Environnement? T'sais, est-ce que c'est vraiment le fonds vert qui doit payer pour les charges courantes du ministère? Puis c'était la même question qu'on se posait à l'époque au ministère des Transports. Est-ce que c'est le fonds vert qui doit payer l'entretien général des réseaux de transport collectif? Ou c'est pas de l'argent qui devrait servir à bonifier les transports collectifs? T'sais, si on fait juste changer les pneus de nos autobus avec le fonds vert, est-ce qu'on atteint les objectifs de réduction d'émissions de GES?
Ben non.
C'est ça, exactement. Mm-hmm. Et bon, évidemment, il y a d'autres choses qui sont notées par M. Lannoy. C'est toutes des affaires qu'on savait un peu déjà. C'est-à-dire que, par exemple, le ministère des Transports verse de l'argent sans déterminer c'est quoi les objectifs de réduction d'émissions de GES des projets qui subventionnent. Donc, 160 millions en 2017-2018 qui ont été donnés sans objectif de réduction d'émissions de GES. Alors, comment tu peux dire après ça si ça fonctionne ou pas, quand tu n'as même pas d'objectif au départ?
C'est ça.
Le ministère de l'Environnement, la MTQ, aucun ratio pour donner des coûts pour savoir, aucun ratio pour coût-avantage lié au GES. Donc, quand je donne de l'argent à un projet, ben là, est-ce que tu regardes combien d'argent tu donnes versus combien de GES ça va diminuer? Ce qui fait qu'il y a des projets subventionnés
où on paye 1 $ par tonne de réduction de GES, puis il y en a d'autres, ça va jusqu'à 350 $ 350 $ par tonne de GES, c'est énorme.
Ah oui.
C'est-à-dire, au marché du carbone, là, le droit de polluer en ce moment est à peu près aux alentours de 22 $ la tonne.
Okay.
Alors, puis le fonds vert se nourrit de l'argent qui est payé par les entreprises qui s'achètent des droits de polluer. Alors, si tu reçois 22 $ par tonne dans tes revenus pour combattre les changements climatiques.
En dépense 350.
Oui, on n'y arrivera pas, là.
Ah non.
Donc, ça montre qu'il y a encore des gros problèmes.
Et le fonds vert, je pensais, moi, que la gestion avait été complètement transformée par David Hurtel à la fin du mandat libéral.
Oui, mais c'était complètement dysfonctionnel. C'est ce qu'on a vu au fil des rapports, des analyses, c'est que cette réforme-là, c'était encore dysfonctionnel. Et là, il y a eu une nouvelle réforme.
Une nouvelle réforme, là. Benoît Charrette, lui, il rapatrie ça au ministère de l'Environnement.
Exactement. Donc, il dit c'est moi qui va gérer ça, c'est le ministère de l'Environnement qui va tout gérer ça. Abolition du Conseil de gestion du Fonds vert, abolition de Transition énergétique Québec. Et bon, le Fonds vert devient le Fonds d'électrification. Il a déposé une nouvelle politique récemment qui va s'appliquer à partir de 2022. Monsieur Lannoy a été questionné en conférence de presse à savoir est-ce que les changements qui ont été effectués par le gouvernement caquiste vont régler les problèmes qu'il dénonce depuis 2014? Et puis sa réponse, c'est trop tôt pour le dire. Il va falloir attendre dans les prochaines années mes rapports. Maintenant, il en fait un par année sur le fonds vert. C'est tout le temps le fonds vert parce que c'est dans l'esprit, là, mais c'est le fonds d'électrification maintenant. Donc, est-ce que ça va changer? On l'espère. Mais pour l'instant, il est un petit peu trop tôt pour le dire. Mais bon, il dit qu'il comprend que le gouvernement a reporté d'un an sa politique de transition énergétique, là. Celle qui est annoncée récemment,
oui.
Là, ça va s'appliquer juste en janvier 2022.
Il comprend ça.
Lui, il dit, avec la pandémie, c'est compréhensible là, qu'il a fallu le reporter. Il n'y a pas rien entre-temps. Ce n'est pas le désert. C'est-à-dire que c'est la continuité des programmes actuels. Par exemple, les subventions pour les autos électriques, les autos sont maintenues, même si la politique est repoussée d'un an. Là. Ça ne disparaît pas pendant un an. Donc, lui, il comprend ça. Mais c'est ça, c'est le fonds vert qui a été créé, ça a engrangé 6 milliards de revenus à date, à peu près 850 millions par année. Puis, au départ, en 2013, le gouvernement estimait que ça allait réduire les émissions de GES c'est presque de 6 millions de tonnes de GES, qui est assez considérable. En ce moment, on est à 72 millions de tonnes, je crois, ça de mémoire. Donc, 6 millions de tonnes, qui est quand même une réduction notable. Puis finalement, on a réajusté le tir en 2019. On est rendu à 2 millions de tonnes de réduits grâce au fonds vert. Donc, on voit que les objectifs de l'époque étaient soit irréalistes, soit, entre-temps, on a pris de mauvaises décisions qui font qu'on n'a pas atteint les objectifs. C'est un des deux, là.
Bon, au moins, le prochain plan va être évalué à chaque année, d'après ce que je comprends.
Il va être évalué à chaque année, d'un côté par le ministère de l'Environnement, qui va réévaluer chacun des programmes de subvention, et par le commissaire au développement durable, qui relève la vérificatrice générale du Québec. Donc, il va également faire cet exercice-là. Évidemment, en décalage de quelques années, là, comme en ce moment, on est en 2020, puis il nous parle de 2017-2018. Donc, il y a tout le temps un décalage avec le VG. C'est normal, lui, il passe après, puis il regarde les factures, il regarde ce qui a été payé. Donc, c'est normal qu'il y ait toujours un décalage.
Mais pour évaluer tout ça, ça va prendre des frais de gestion.
Oui.
Ce qui nous ramène au début.
Une fois, le VG l'a dit, là, malgré tout, il n'est pas satisfait, il n'est pas capable d'obtenir des documents. Puis même sous la gouverne actuelle, lui, il déplore le fait que, par exemple, le ministère de l'Environnement doit faire un rapport sur le plan d'action au changement climatique 2013-2020. Et en fait, sur la portion 2013-2018, là, il aurait dû déposer un rapport il y a déjà très longtemps. Finalement, ça va être déposé en 2022, donc avec 3 ans et demi de retard. Et puis pourtant, c'est une exigence prévue à la loi. Donc, c'est pas nécessairement de blâmer les politiciens, là, mais bon, il y a quand même une imputabilité le ministère de l'Environnement est en contravention avec sa propre loi. Aurait-il déposé un rapport en 2018? Il ne sera pas déposé avant 2022. C'est étonnant. C'est d'autres choses qui sont déplorées là, par le commissaire au développement durable.
Merci beaucoup, Charles Cavalier, pour cette analyse du rapport du commissaire au développement durable.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Et vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
Antoine Robitaille.
Le philosophe de la politique.
La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Au bout du fil, il y a Martin Ouellet, député de René-Lévesque. Bonjour.
Bonjour.
Donc, selon le Parti québécois, à l'Assemblée nationale, ça prendra un directeur parlementaire du budget, là. Et vous l'avez demandé encore en motion aujourd'hui.
Oui, on avait eu une motion unanime en novembre 2019. Tous les partis s'étaient entendus pour nommer un directeur parlementaire. Et lorsqu'on a vu la mise à jour économique et voir deux années manquantes et voir les scénarios optimistes du ministre Girard pour l'équilibre budgétaire être totalement absente pour la suite, évidemment, c'est venu renforcer notre prétention d'avoir une fierce partie indépendante qui nous permet d'avoir un œil juste sur la situation. On le voit présentement, le gouvernement fédéral, ça fait quoi? Un an et quart qu'il n'y a pas de budget qui a été déposé, mais une chance que le directeur parlementaire est là pour indiquer à la population et aux autres parlementaires l'état des finances publiques, les marges de manœuvre et le coût des décisions concrètement qui ont été prises par le gouvernement, notamment en cas de pandémie. Alors, pour nous, il devient essentiel de se le doter. Et malheureusement, la CAQ a décidé de le pelleter dans la réforme parlementaire et donc dans la prochaine législature et non pas dans la législature actuelle, ce qu'on voulait avoir aujourd'hui dans notre motion.
Comment vous expliquez qu'ils, encore une fois, ont refusé aujourd'hui votre motion qui demandait la création d'un tel directeur parlementaire, alors qu'on se souvient très bien là, que Christian Dubé, dans le temps, Éric Kerr et combien d'autres faisaient la promotion de cette affaire-là, François Bonnardel aussi. Donc, c'était quasiment rendu une idée caquiste. Oui. Comment vous expliquez qu'une fois au pouvoir, ils ne le font pas? Est-ce que c'est parce que maintenant, la vérificatrice générale peut justement vérifier les finances publiques avant chaque élection et donner un portrait optimiste, pas optimiste, un portrait objectif?
Non, je pense que ça, c'est effectivement une notion importante qu'on a maintenant et qui donne un peu le portrait clair avant de lancer tout le monde à l'élection. Cela étant dit, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un malaise au sein du ministère des Finances? Parce que c'est challengeant d'avoir un directeur parlementaire, parce que lorsque je présente des prévisions trop optimistes, puis que les prévisions qui sont présentées par le directeur parlementaire sont plus conservateurs, ben là, je dois expliquer pourquoi la différence. Et même chose aussi dans le nombre de fois que le directeur parlementaire peut rendre des comptes comparativement au gouvernement. On est chanceux, Antoine, on a négocié avec le gouvernement suite à la fermeture du Parlement lors de la pandémie. On a mis cours au discours du budget, puis on a adopté des crédits pour être capable de traverser la première vague. Mais on a négocié la contrepartie que si le gouvernement allait faire une mise à jour économique, il y aurait des débats en commission des finances publiques, ce qu'on devrait avoir ultérieurement. Et donc, ça nous permet de faire un exercice intéressant de réduction de compte pour la population et de questionner le ministre sur ses orientations. Or, si j'ai pas de chiffres et que je n'ai que les conférences de presse, parce que c'est ça, les mises à jour économiques ou le point économique qu'ils nous font habituellement, c'est un exercice qui est un exercice de communication et on a accès aux informations par la suite. Mais dans le détail, il nous manque de l'information et le docteur parlementaire pourrait apprécier effectivement la justesse de certaines prévisions et pourquoi, dans certains cas, on trouve que le ministère des Finances est peut-être plutôt optimiste pour la progression du PIB ou un peu pessimiste tant qu'à la véritable volonté de sortir d'une crise à long terme.
Là, vous le trouvez optimiste, le gouvernement, en disant qu'il va équilibrer... En 2025, il va équilibrer le budget, puis entre autres avec beaucoup d'argent qui vient du fédéral.
Oui, et il a ouvert aussi la porte à une autre chose, de peut-être revoir la loi sur l'équilibre budgétaire et le fonds de génération pour peut-être changer quelques balises qui nous amèneraient à moins cotiser pour répondre à nos obligations. Et ça, c'est le genre de discussion que le ministre des Finances, je pense, qu'il veut avoir. Et l'autre chose aussi, et c'est là que c'est fondamental aussi, les prévisions de relance économique que le gouvernement se donne à 2,1. Or, les économistes qu'on a consultés et qu'on peut consulter, notamment avec la chaire en économie, fiscalité, pardon, de Sherbrooke, nous amène à des projections qui sont moins optimistes. On est autour de 1,7, 1,8 d'augmentation du PIB. Et donc, on n'est pas à la même place. Donc,
mais dans la mise à jour, on parle même de 5% d'augmentation du PIB dans le rebond, là. Ça est-ce que ça vous apparaît réaliste?
Non, ça, c'est un peu réaliste parce que c'est le rattrapage de la perte qu'on a eue après le lockdown, excusez-moi l'expression anglaise, mais ouais. La fermeture des commerces et de l'économie. Comme c'est très conjoncturel, évidemment, il est tout à fait pertinent de voir que comme le marché intérieur est actif et que les gens consomment quand même, puisque les programmes sociaux, notamment la prestation d'urgence ou les programmes qui ont permis aux entreprises de garder leurs employés au travail, ont permis de maintenir certaines liquidités. Donc, il y a eu un déplacement des biens, l'achat des biens. Ceux qui avaient l'habitude d'acheter des voyages, en fait, se sont tournés vers la rénovation. Je fais une histoire courte en disant que l'argent était disponible, elle a circulé. Et donc, il n'est pas tout à fait faux de penser que dans la première année, on va reprendre ce gap-là de 5,1% pour revenir à ce qu'on était avant la pandémie. Et après ça, c'est là que les projections sont optimistes, considérant qu'on est encore en deuxième vague et que lors de la projection, on n'avait pas encore d'indication pour le vaccin et non plus de la stratégie et de la façon dont les autres économies vont se comporter. Bref, faire une histoire courte. Il y a beaucoup de vœux et je pense que c'était voulu pour le gouvernement de ne pas noircir dans son budget les deux années manquantes sur une projection de 5 ans. Tout ça parce qu'il veut donner marge de manœuvre de réajuster. Donc, il ne veut pas annoncer de mauvaise nouvelle. Il fait le pari que ce sera de bonnes nouvelles ultérieurement. Mais le directeur parlementaire aurait pu justement nous dire si effectivement tous ces scénarios-là étaient plausibles dans certains cas, nous amenaient à une augmentation de revenus ou une baisse des services.
En terminant, Martin Ouellet, est-ce que vous croyez à la création d'un jour d'un poste de directeur parlementaire du budget avec une réforme parlementaire comme la CAQ veut le faire?
Ben, écoute, si on ne réussit pas dans la législature, évidemment, on va pousser fort. Ça fait partie des demandes du gouvernement. Notre formation politique, elle est à l'aise avec ça. Québec solidaire aussi. J'ai pas entendu encore les libéraux à ce sujet, mais je pense que pour l'institution, pour les contribuables, ça prend un acteur indépendant. Et je pense que comme institution, on doit aller dans ce sens-là. On aimerait plus vite, mais vaut mieux plus tard que jamais. Alors, on va travailler dans le sens que si c'est pas cette année, ça sera assurément le plus rapidement possible, au mieux dans la prochaine législature.
Ben, merci beaucoup, Martin Ouellet.
Merci beaucoup, Antoine.
Martin Ouellet est député du Parti québécois de René Lévesque. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.
Cube Radio.